On relève la sauce. Un peu de sel, un peu de poivre. Et quelques épices. À la découverte de la vie associative mayonnaise.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission On relève la sauce. Émission qui décortique et qui décrypte la vie associative en Mayenne à travers différents portraits d'acteurs, différents portraits d'associations, mais aussi quelques ressources et diverses chroniques. Justement, nouvelle saison, nouvelle recette, nous vous proposerons au long de l'année, deux nouvelles chroniques, une en partenariat avec l'APES, l'Association de Promotion d'Économie Sociale et Solidaire, et une deuxième avec Christophe Troupeau, professeur d'histoire, qui nous fera justement l'histoire des associations en Mayenne. Qui dit mois de septembre dit rentrée et dit évidemment forum des associations. L'autre radio était présente lors du forum de Château-Gontier-sur-Mayenne et sur celui de Laval. Nous avons donc saisi l'occasion de tendre le micro à différentes associations. Et pour commencer, je vous propose de découvrir l'Université du Savoir Partagé, enregistrée justement lors du forum de Château-Gontier-sur-Mayenne, d'où ce léger petit bruit de fond.
Jean-Yves Chevalier, je suis le président de l'Université du Savoir Partagé depuis le départ.
Et Jeanne Gibon, moi je suis vice-présidente, mais à l'Université du Savoir Partagé, c'est surtout une équipe qui participe à la programmation d'une dizaine de conférences par an, une par mois.
Les échanges de l'équipe qui constitue l'université ont démarré en janvier 2012 et l'association a été constituée en novembre 2012, donc 10 ans de fonctionnement. L'association est créée pour promouvoir l'accès à la culture et au savoir pour tous, de permettre de débattre sur de multiples sujets localement, dans des locaux spacieux au lycée Victor Hugo, dans la grande salle du lycée Victor Hugo. Chaque mois, nous pouvons assister à une conférence.
Le but de toutes les universités populaires, c'est de démocratiser le savoir et de le mettre au niveau de tous ceux qui n'ont pas eu forcément la chance de pouvoir aller à l'université, quel que soit le sujet en cours. Alors ça peut être des sujets aussi bien historiques que des sujets culturels, peu importe le sujet, ça dépend de la programmation qui est préparée par une douzaine de personnes d'une année sur l'autre dans le conseil d'administration. Quelquefois, il y a une thématique sur une année où on fait plusieurs conférences sur le même thème. Hein. Par exemple, on a eu l'histoire des religions et là, on a essayé de brosser l'historique de toutes les religions qui existaient sur notre pays. Et là, il y a eu 5 conférences.
Les décisions de programmation sont prises en équipe. On se réunit une fois par mois pour décider la programmation. Mais en amont, deux petits groupes vont prendre du temps, soit par courrier, soit par téléphone, soit par email, ou aller à la rencontre d'une personne qui œuvre, qui diffuse le thème, son thème scientifique, philosophique ou les enjeux de société, ou un historien, et il va nous présenter au petit groupe, il va déjà présenter la trame, comment il aborde le sujet, si c'est sur l'Algérie, voilà la période de la colonisation, la décolonisation, comment il va le présenter, il va présenter le plan, et après c'est soumis au conseil d'administration, à l'équipe qui va décider de la programmation en harmonie avec le temps. Nous c'est le mardi soir, donc il faut que ce soit compatible avec l'emploi du temps de la personne. Nous n'avons pas pu par exemple développer de conférences sur la médecine, la santé, parce que il faut trouver le sujet, il faut trouver les intervenants et ils sont pas forcément disponibles pour ce genre de conférence d'université populaire ou d'université du soir, alors que en histoire, en littérature, en En histoire de l'art, en économie, il y a des personnes. Voilà. Philippe Barieux, par exemple, en Mayenne, à Mayenne, à Laval et à Château-Gontier, est intervenu un certain nombre de fois.
Alors, par exemple, cette année, la première conférence démarre le français et l'anglais, langues cousines, si proches et si différentes, par Pierre Huthier. Donc voilà, pour la première, et après, on varie au mois d'octobre avec une conférence à travers la chanson de 1870 à 1980.
Est-ce qu'il y a d'autres grandes thématiques justement?
Après, on arrive à un sujet par thème, l'enjeu de société. C'est un cycle de deux conférences par Swazik Manakchovel, c'est dans une de ses séries de conférences, Heures et malheurs de l'individualisme et la déconsommation, mode ou nécessité. Ça correspond aux conférences de novembre et de décembre. Alors, on peut participer à ces conférences de différentes façons. Mm-hmm. On peut prendre un abonnement et participer à toutes les conférences de l'année. L'abonnement est à 10 euros et les conférences après sont à 2 euros l'unité. Ou on peut venir à une seule conférence et là, le tarif est de 3 euros.
Très accessible.
Très accessible, puisque le but, c'est de mettre le savoir partagé.
Donc, c'est le mardi soir. Mm-hmm. Au lycée, dans la grande salle du lycée Victor Hugo, à 19h, de 19h à 21h. Voilà, en toute simplicité.
Eh bien, merci à vous.
C'est nous qui vous remercions.
C'est nous qui vous remercions.
Merci. Vous pourrez retrouver tous les renseignements et toutes les informations pratiques de l'Université du Savoir Partagé du Pays de Château-Gontier directement sur notre site, rubrique « On relève la sauce ». Avant de découvrir l'association Zéro Déchet en Mayenne, portrait enregistré lors du forum des associations de Laval, je vous propose une petite pause histoire. Et pour cela, nous commençons cette nouvelle chronique avec Christophe Tropeau. Bonjour.
Bonjour.
Donc, tu es docteur en histoire et tu as soutenu une thèse consacrée à la sociabilité associative rurale en Mayenne des années 1830 aux années 1930. Tout un programme qu'on va découvrir tout au long de l'année. Et pour commencer, tu vas nous parler aujourd'hui des toutes premières associations mayennaises. Alors, peut-être faut-il d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est une association.
Tout à fait. Une association, au départ, se définit sur trois critères. D'abord, c'est un groupe de personnes qui se réunit avec un but commun. C'est ensuite un élément extrêmement important, un règlement avec des statuts qui, à l'époque, qui nous intéressent, sont écrits. Et puis enfin, afin d'exclure tout groupement sectaire et société secrète, il faut que l'association soit reconnue ou tout du moins connue par les autorités publiques, qui peut être le préfet, le sous-préfet ou plus simplement le maire.
D'accord, mais ces trois critères se mettent en œuvre à partir de la loi sur la liberté associative du 1er juillet 1901.
Eh bien non. Ah. Eh bien non, puisque en fait les spécialistes de l'histoire associative aiment bien dire que l'association n'a pas attendu la loi de 1901 pour exister. En réalité, la loi de 1901, elle vient encadrer une vitalité associative qui, en Mayenne par exemple, existe depuis près de 70 ans. Et aujourd'hui, je voudrais remonter encore un petit peu plus pour évoquer la préhistoire des associations en Mayenne.
D'accord, la préhistoire, donc là, il faut remonter jusqu'à quelle époque?
Là, il faut remonter un tout petit peu plus, c'est-à-dire la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est à partir des années-là qu'apparaissent les premières sociétés littéraires. En 1755, par exemple, la création d'une telle association est annoncée à Laval, mais on ne connaît pas trop ses activités et son dynamisme. En revanche, des sociétés littéraires plus durables et mieux connues naissent à Ernée en 1759, à Cran en 1764. Et puis à Laval, la société Bercé, la première véritablement active, date de 1763. On le voit, la ville n'a pas la primeur sur la campagne.
Et que fait-on justement dans ces premières sociétés littéraires? Qu'est-ce qu'on y fait dedans?
Alors, le XVIIIe siècle est connu pour être le siècle des philosophes des Lumières, Montesquieu, Voltaire, Diderot. Et donc, il y a une volonté parmi une certaine élite intellectuelle de diffuser le savoir. Et cela donc passe par la circulation de livres, mais aussi dans les très grandes villes comme Rennes ou Angers, par la création de sociétés savantes, où l'on peut se réunir pour discuter de l'actualité, lire les journaux auxquels on est abonné, lire les livres de la bibliothèque, mais également se divertir. Et donc, les sociétés littéraires qui sont fondées à Ernée, Laval ou Cran, et plus tardivement à Évron et Saint-Denis d'Anjou, sont des déclinaisons locales avec des moyens plus limités de ces sociétés savantes urbaines. Et il existe un véritable engouement, un véritable appétit de savoir, même à l'échelle d'un gros bourg rural, parmi les notables locaux.
Ces sociétés littéraires, en fait, ne sont pas forcément ouvertes à tout le monde.
Effectivement, c'est une élite locale qui est ici, une petite vingtaine de notables. Puis tout d'abord, il faut payer une cotisation élevée. Cette cotisation, elle sert à payer la location du local de la société, qui peut être un appartement, mais qui est le plus souvent une maison tout entière avec un jardin. La cotisation, elle sert aussi à payer le concierge, qui est logé dans la maison, qui est chargé de l'entretien, du ménage, du chauffage, de la réception des journaux. La cotisation, elle sert aussi à payer les abonnements, l'achat de jeux et tous les frais de fonctionnement, comme les chandelles pour l'éclairage, le bois pour le chauffage. Et puis à côté de la contrainte financière, il y a la contrainte de temps, puisque pour venir passer du bon temps à la société littéraire, il faut du temps libre. Et donc le local, il est ouvert toute la journée. On y retrouve essentiellement des nobles, des religieux, des riches rentiers, on dirait aujourd'hui des riches retraités, quelques professions libérales comme des avocats, des notaires, des riches marchands, mais également des médecins, même si leur temps libre est relativement court. Et par conséquent, dans ces premières sociétés littéraires, il n'y a pas d'artisans, pas de commerçants et encore moins de paysans.
Comment connaît-on justement ces premières sociétés ? Est-ce qu'il y a des sources d'informations sur le sujet ?
Alors, sur ces sociétés-là, les sources, elles sont postérieures, quand la vitalité associative va vraiment décoller, dans les années 1830. Mais en Mayenne, on a la chance, en tout cas aux archives départementales, d'avoir recueilli, il y a quelques années, deux registres de délibération de ces sociétés sur la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle. Et, par exemple, pour la société littéraire de Cran, on peut suivre toute sa vie entre sa création dans les années 1760 et les années 1830. On peut lire les difficultés financières, on peut lire ses difficultés de recrutement, on peut lire également ses difficultés pour trouver un local. Et justement, c'est un problème de local qui conduit la société de Cran à entrer en sommeil en 1801, alors qu'elle avait survécu à toute la période révolutionnaire.
Justement, mais que deviennent ces premières associations au début du 19e ?
Eh bien, ces premières associations, elles vont être fragilisées par plusieurs facteurs. Premier facteur, le contexte politique, globalement peu favorable au mouvement associatif, avec des lois révolutionnaires comme la loi Le Chapelier qui interdit les groupements de personnes pour ne pas polluer le lien entre l'État et les individus. Deuxième facteur, c'est la disparition des membres fondateurs, puisque 20 ans, 30 ans après leur création, eh bien, ces sociétés peinent à recruter. Et puis troisième facteur, elles sont un temps concurrencées par une autre forme de groupement, que sont les loges maçonniques. Par exemple, à Ernée, on a une loge maçonnique qui est créée en 1775, à Cran en 1805. Or, ces loges maçonniques proposent globalement les mêmes activités et recrutent parmi les mêmes classes sociales. Et donc globalement, les premières sociétés littéraires mayennaises, rurales et urbaines, de la fin du XVIIIe siècle, entrent en sommeil dans les années 1810-1820. Certaines, progressivement, se transforment en clubs à l'anglaise, où on se divertit plus qu'on ne lit autour du billard, et où on boit de l'alcool, du cidre ou de l'eau sucrée. Et c'est sur ce terreau que fleurissent les sociétés et les cercles qui vont apparaître dans les années 1830 et qui lancent véritablement le mouvement associatif dans les campagnes mayennaises. Mais ça, je vous en parlerai la prochaine fois.
Très bien, merci beaucoup Christophe.
Merci.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
relève la sauce.
Sensibiliser sur la question des déchets au quotidien, et mais aussi de se donner quelques petits conseils pratiques pour limiter justement ces déchets, c'est ce que propose l'association Zéro Déchet en Mayenne. Nous avons rencontré Nalouen, coprésidente, lors du forum des associations de Laval.
Bonjour, alors on est une association créée en 2019, qui est un groupe local de l'association nationale Zéro Waste France.
D'accord.
Et notre mission, c'est de sensibiliser le maximum de personnes à la nécessité de réduire les déchets et de réduire le gaspillage.
D'accord.
L'idée, c'est de réduire en amont les déchets, parce qu'on se rend bien compte que les poubelles débordent et que ça devient très très compliqué à gérer. Et donc on s'adresse à la fois aux particuliers, mais aussi aux collectivités, aux écoles, aux entreprises, vraiment à tout le monde. On est structuré en différents groupes d'action.
D'accord.
Il y a un groupe qui se charge de faire les conférences. Un autre qui se charge de mobiliser les commerçants, dont je parlais tout à l'heure, et de les référencer. Un autre qui s'appelle Réemploi Ordi, là qui peut intéresser vraiment absolument tous les auditeurs. Si vous avez du matériel informatique dont vous ne vous servez pas chez vous, donc peut-être même endommagé, vous pouvez nous les donner. Et nous, on a un bénévole qui se charge d'essayer de les réparer, en fait. Faire deux ordinateurs avec un, ce genre de choses.
Okay.
Du coup, on les nettoie, on réassemble, on répare, on installe des logiciels libres et ensuite, on les donne. On peut les donner à des associations, on peut les donner à des particuliers. Il suffit de nous solliciter et voilà, c'est parfaitement gratuit.
D'accord.
Et dans cette logique toujours de réparation et de réemploi et de faire durer le plus longtemps possible et de laisser une autre empreinte sur notre planète. Et donc dans les autres groupes, on a un groupe Faire Soi-même qui est plutôt dédié à montrer aux gens comment fabriquer par exemple leurs propres produits, produits d'entretien ou produits cosmétiques, de façon à se passer des produits de grande surface qui sont emballés, qui génèrent un déchet une fois qu'on a terminé.
Quelles sont les actions que vous mettez en place? Comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne? Alors les particuliers, on va les croiser beaucoup sur des événements mayennais, du type festival. On était à Planète en fait au mois de juillet par exemple. On ne va pas forcément aller chez les gens, sauf si on nous le demandait, pourquoi pas, ce serait un format à inventer. Souvent, on répond à des sollicitations. Par exemple, l'école de kiné de Laval nous a demandé de sensibiliser une promotion d'étudiants à la question du zéro déchet. Du coup, on a créé une conférence qu'on a appelée « Initiation au zéro déchet ». Et pendant une heure et demie, on a présenté aux étudiants les enjeux des déchets. Pourquoi est-ce que c'est une vraie problématique en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il faut faire quelque chose? Et surtout, ce qu'on peut faire. Et donc c'est une conférence un peu dialoguée, on essaie de savoir ce que les gens connaissent déjà, on répond à leurs questions et puis on leur donne des actions extrêmement concrètes sur quand on habite à Laval ou quand on habite à la campagne en Mayenne, comment est-ce qu'on fait pour réduire ses déchets et pour prévenir le gaspillage des ressources.
Je veux essayer de diminuer mes déchets, donc j'imagine que ça commence dès l'achat.
Ou le non-achat.
Ouais,
en fait, le premier principe du zéro déchet, c'est refuser. C'est de se dire que finalement, il y a des choses qu'on pense acheter et finalement dont on n'a pas besoin. Donc première chose, a-t-on vraiment besoin des choses? Si ce n'est pas le cas, on renonce à cette petite idée qu'on avait eue d'acheter ou ce genre de choses. Il ne s'agit pas d'austérité non plus, il s'agit plutôt de libre choix et de choix éclairés. Donc on essaie de refuser quand ça ne s'impose pas, on réemploie aussi, on fait durer au maximum les objets que l'on décide d'acheter, en les réparant par exemple. Quand on fait des achats, on réfléchit à l'impact que les achats peuvent avoir, quelque chose de très concret et très visible en termes de déchets, ça va être l'emballage. Donc on va prôner par exemple l'achat en vrac. Et en dernier recours, ça va être de se dire, puisque j'ai généré un déchet, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux au moins le recycler, histoire qu'il revienne, que la matière ne soit pas complètement perdue, qu'on n'aille pas sur une pollution supplémentaire?
Quel lien est-ce que vous avez là sur le territoire? Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, d'autres structures ou pas?
Oui, on le fait. On peut déjà relayer les informations qui concernent des associations qu'on appelle amis, donc avec des objets sociaux un petit peu similaires aux nôtres.
Okay.
On s'intéresse de très près à ce que propose Emmaüs, par exemple, les recycleries, ce genre de choses, les magasins qui vendent en vrac. Les circuits courts sur les marchés, beaucoup de choses comme ça. Et puis de temps en temps, les collectivités nous demandent aussi d'intervenir, par exemple pour
justement
le défi zéro déchet porté par Laval Aglo et l'association Synergie, Et ponctuellement, nous sommes intervenus au moment où il fallait donner des idées concrètes aux familles pour réduire leurs déchets. Donc on leur a expliqué, par exemple, comment on achète en vrac. Parce qu'il ne suffit pas de parler d'achat en vrac. Des fois, l'obstacle, c'est de se dire, en fait, je ne sais pas comment ça marche. C'est quoi ces histoires de tare? Qu'est-ce que je fais de mon bocal? Ah bon, je n'emmène pas de sachet? Voilà. Des choses, on est bloqué par des choses très, très simples du quotidien. Ça peut être intéressant d'en parler, de dire, moi aussi, j'ai fait le premier pas un jour pour acheter en vrac. Je ne savais pas faire. Quelqu'un m'a aidé. Maintenant, je ne fais plus que ça. Vous aussi, vous pouvez le faire. Voilà, on essaie d'être dans un encouragement conseil. Très bienveillant dans le conseil. Alors, on agit sur à l'échelle de la Mayenne. Donc, évidemment, les collectivités, potentiellement, on en a beaucoup. Voilà. Donc, on est encore jeune et encore petit, mais on va grandir. Je peux vous parler de partenariats qu'on a eu récemment avec Goron et Mayenne, et les services notamment liés au commerce. Qui nous ont sollicité, et le CPIE bien sûr, qui nous ont sollicité pour faire ce qu'on appelle des marathons commerçants zéro déchet. Donc on a mobilisé des bénévoles et on est allé dans les commerces leur demander s'ils accepteraient que leurs clients viennent avec leur propre boîte ou leur propre sachet afin d'éviter l'emballage. Et donc ça nous permettait de sensibiliser en même temps les commerçants et puis les futurs clients. Les questions qui se posent sont les questions d'hygiène auxquelles on répond de façon très simple. Le contenant doit être propre et adapté à ce qu'on doit y mettre. Donc voilà, une boîte pour du fromage, par exemple, une bouteille pour du lait. Et le commerçant peut décider que si un contenant lui paraît impropre, au sens de l'hygiène ou bien du format, il décide de ne pas servir le client. Mais c'est franchement très très rare, puisqu'en fait, les gens qui sont dans la démarche zéro déchet et zéro gaspillage sont déjà sensibles à ça, et ils ont les contenants qui sont adaptés. La question de la responsabilité vis-à-vis de la nourriture aussi, un commerçant peut se dire, je vends du fromage ou de la viande, et qu'est-ce qui se passe s'il y a une contamination, par exemple?
S'il y a une mauvaise chaîne du froid.
Voilà, et la loi donc s'est mise du côté du commerçant, en lui disant que du moment qu'il avait accepté de vendre son produit dans un emballage qui n'est pas le sien, il est dédouané de ce qui pourrait se passer par la suite. Eh bien, vous pouvez venir à notre rencontre le 6 octobre, en soirée. On va s'installer à l'Afterwork, donc un bar à Laval. Et on va écouter Aude, du CPIE, nous expliquer où vont nos déchets. Parce que c'est une question... En fait, nos déchets ne vont pas juste dans leur poubelle. On ne sait pas forcément où ils vont. Et donc là, on va savoir où vont les poubelles jaunes en Mayenne, où vont les poubelles noires, ce qui se passe au niveau des déchetteries. Voilà, ce sera de l'information. Ce sera l'occasion aussi de poser des questions et puis d'échanger avec toutes les personnes qui seront présentes. Notamment de savoir que ce n'est pas parce que quelque chose est recyclable ou mis dans la poubelle de tri qu'il est effectivement recyclé. Ça, c'est un des grands mythes qu'on essaie de démonter. Voilà, ce qu'on appelle un peu l'enfumage du recyclage. Il y a beaucoup de choses à en dire. Venez en parler avec nous le 6 octobre.
Le 6 octobre à l'Afterwork sur Laval. Eh bien, merci beaucoup, Nolwenn, donc, de l'association Zéro Déchet en Mayenne.
Merci.
Vous pouvez donc contacter l'association Zéro Déchet en Mayenne sur leur page Facebook Zéro Déchet en Mayenne. Les liens sont aussi sur notre site. On continue cette émission et pour terminer, un nouveau rendez-vous, une nouvelle chronique proposée par l'APES. Et c'est pourquoi je reçois Janina. Bonjour.
Bonjour Anthony.
Donc Janina, tu es coordinatrice de l'APES 53, mais quelle est cette association?
L'APES 53, donc association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire en Mayenne. Elle a été créée il y a 22 ans par des acteurs impliqués dans l'ESS pour avoir comme mission de représenter et valoriser la dynamique locale de l'ESS en Mayenne. Et avec le temps, elle a développé aussi une mission d'accompagnement des initiatives d'innovation sociale et de l'ESS.
On va déjà ensemble essayer toute l'année de cadrer un petit peu, d'essayer d'expliquer ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on peut en avoir une définition?
Alors, avant de donner la définition, juste poser le cadre, juste dire qu'il y a une loi du 31 juillet 2014 qui donne la définition légale de l'économie sociale et solidaire. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Donc, l'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Et donc, les entreprises de l'économie sociale et solidaire remplissent les mêmes conditions. Alors, nous, on les appelle les mêmes principes.
Et quels sont justement alors ces principes, ces conditions pour être considérés comme faisant partie de l'économie sociale et solidaire?
Le premier principe, c'est que le but d'une entreprise de l'économie sociale et solidaire est autre que le partage des bénéfices. On dit qu'au cœur de l'activité d'une structure de l'ESS est l'humain, puisque ces entreprises-là apportent des réponses à des besoins sociaux, environnementaux, identifiés sur un territoire. Et donc l'objectif pour ces entreprises-là, c'est tout d'abord de remplir leur mission sociale.
D'accord, donc c'est d'avoir une mission sociale.
Environnementale, ça dépend du secteur d'activité, puisqu'on avait dit que l'ESS est présent dans tous les domaines d'activité tous les domaines de l'activité humaine. Deuxième principe, on parle d'une gouvernance démocratique qui prévoit l'information et la participation des différentes parties prenantes, que ce soit des partenaires, des salariés, des associés. L'objectif, voilà, c'est de créer une gouvernance pas partagée, mais plutôt participative, à impliquer les différentes parties prenantes à différents niveaux.
D'accord.
Autre principe qui est spécifique aux entreprises de l'ESS, c'est qu'elles doivent avoir une gestion un peu conforme au principe suivant, c'est-à-dire que les bénéfices sont majoritairement réinvestis dans la structure, soit pour le maintien de l'activité, soit pour développer de nouveaux projets. Et on parle des réserves obligatoires pour le modèle coopératif, là où on rencontre souvent le terme réserve. Les réserves sont impartageables. Donc voilà un peu les trois principes qui sont spécifiques aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.
D'accord, tel que le définit justement la loi...
La loi cadre 2014 du 31 juillet.
Ok. Et justement, dans les structures qui existent déjà, quel type de structure est-ce qu'on peut retrouver justement dans cette dénomination d'économie sociale et solidaire ?
L'économie sociale et solidaire donc, est composée des activités de production, de transformation, de distribution, de consommation des biens, des produits, des services sous la forme de plusieurs structures. On parle d'associations, de coopératives, des mutuelles et des fondations, donc c'est vraiment les statuts historiques de l'économie sociale et solidaire. Et la loi cadre 2014 permet aux sociétés commerciales qui, au terme de leur statut, voilà, remplissent certaines conditions pour se faire reconnaître dans l'ESS.
Donc en fait, justement, ouais, les associations, coopératives, mutuelles, tout ça, c'est ce qu'on avait un peu en sous-entendu quand on entend parler de gouvernance démocratique, quand on entend parler de non-bénéfice, ou en tout cas de non-partage du bénéfice. Mais les sociétés commerciales le peuvent également être considérées de ce secteur-là. Qu'est-ce qu'elles doivent changer ? Qu'est-ce qu'elles doivent c'est quoi justement qui leur permet d'être dans ce cadre ?
En fait, ils doivent inscrire dans leur statut certaines conditions. Voilà. Les statuts devront être déposés au registre du commerce et des sociétés et ensuite ils vont recevoir cette reconnaissance, on ne parle pas de label, mais reconnaissance dans la grande famille de l'économie sociale et solidaire. Alors, quelles sont les conditions ? Tout d'abord, ils doivent assurer une gouvernance participative. Ça, c'est le premier principe qu'ils doivent inscrire dans les statuts. Ils doivent poursuivre une activité d'utilité sociale et puis limiter la lucrativité en orientant les excédents en faveur de l'activité qui relève d'utilité sociale. Peut-être on va proposer un autre temps pour expliquer c'est quoi l'utilité sociale, puisque ce concept, je dirais, est aussi spécifique aux structures de l'économie sociale et solidaire qui veulent obtenir l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale.
Oula, beaucoup de termes que
beaucoup
on va là.
Beaucoup de termes, donc je propose qu'on se penche là-dessus dans un autre temps.
Exactement. Du coup, on se retrouve le mois prochain pour avoir un petit peu plus d'explications sur ces termes. Merci beaucoup, Janina.
Merci, Anthony. À bientôt.
À bientôt. Et vous pouvez retrouver toutes les informations de l'APES sur le site APES53 ou sur les différents réseaux Facebook, Twitter, LinkedIn. Et c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réécouter toute cette émission et avoir l'ensemble des informations et des liens vis-à-vis des invités sur notre site internet l'autreradio.fr, rubrique émission, on relève la sauce. Si vous souhaitez nous partager un événement de votre association, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre boîte mail contact@l'autreradio.fr ou tout simplement à laisser aussi un message sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. Belle fin de mois à vous, merci d'être fidèle à l'autre radio et nous on se donne rendez-vous le 20 octobre.